Vous écoutez, on lit pour vous.
Les bienfaits de la nature sur la santé. Un texte de Florence Dujoux, paru le 14 mai 2023 dans Verdict Santé. Marchez lentement dans la forêt. Écoutez le bruit des branches qui craquent. Admirez les couleurs des feuilles. Respirez l'odeur des arbres. Et même leur faire des câlins. Le Shinrin-yoku, bain de forêt en japonais, est une immersion sensorielle encouragée par l'Agence des forêts du Japon depuis les années 1980 pour aider les citadins à mieux contrôler leur stress. Depuis, les habitants du pays l'ont largement adopté, d'autant qu'ils considèrent la forêt comme un lieu sacré. Bien sûr, le contexte géographique et culturel du Canada est bien différent de celui du Japon. Malgré tout, l'idée fait son chemin jusqu'ici. Lancé en mai 2022, le programme Prescrit Nature encourage les professionnels de la santé à prescrire des sorties en nature à leurs patients. C'est que les Canadiens n'échappent pas au stress de la vie moderne, récemment exacerbé par la pandémie de même que par la situation économique. De plus, près des trois quarts, 73,7% d'entre eux, habitaient dans les grands centres urbains en 2021, selon Statistique Canada. Le paradoxe, c'est que 9 personnes sur 10 disent être plus heureuses lorsqu'elles sont entourées par la nature. Peut-être faites-vous d'ailleurs partie de ces gens qui se mettent intuitivement au vert pour se ressourcer. Or, quels sont les véritables bienfaits de la nature sur la santé? Le contact avec les espaces verts a-t-il sa place dans une approche thérapeutique? Quelle importance a le fait d'être entouré d'arbres au quotidien? Voici ce qui a été démontré et ce qu'il reste à découvrir. Des bienfaits physiologiques avérés. Le contact avec la nature a des effets clairement démontrés sur la santé, selon les résultats d'une vaste revue de la littérature scientifique réalisée en 2021 par la Société des établissements de plein air du Québec, CEPAC, par une équipe de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal, l'ICM. Le directeur de l'étude, Louis Beherer, neuropsychologue et directeur du centre épique de l'ICM, souligne que plusieurs bienfaits physiologiques de l'interaction avec la nature sont bien établis par la science. Baisse de la fréquence cardiaque, diminution de la pression artérielle, meilleur équilibre du système nerveux autonome qui régule les processus corporels se produisant automatiquement comme la respiration, et réduction des niveaux de cortisol, une hormone liée au stress. Des bienfaits psychologiques présumés. Du côté de la santé mentale, le seul bienfait nettement établi est la réduction de l'anxiété. L'exposition à la nature peut être très efficace chez le patient anxieux. En revanche, nous ne pouvons pas affirmer hors de tout doute qu'elle fonctionne pour traiter la dépression, nuance le docteur Beherer, également professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Plusieurs autres bienfaits psychologiques de l'expérience en forêt sont avancés, avec toutefois un niveau de preuve moins élevé, comme une sensation réparatrice, une amélioration de l'humeur ainsi qu'une diminution de la fatigue et des émotions négatives. Bien que peu d'études existent quant aux effets de l'interaction avec la nature sur la cognition, quelques-unes suggèrent des effets positifs sur l'amélioration de la fonction cognitive, la restauration de l'attention, de même que la réduction de la fatigue mentale et de la confusion. Des bienfaits curatifs à démontrer. Dans l'état actuel de la recherche, on n'est pas nécessairement dans le traitement d'une pathologie, mais dans la prévention, avec des bénéfices clairs pour la santé, estime le docteur Louis Beherer. Un plus grand nombre d'études doivent être menées pour déterminer si l'interaction avec la nature peut contribuer au traitement de certaines maladies. Néanmoins, ce qui ne fait aucun doute, c'est que les gens qui s'exposent beaucoup à la nature sont des gens qui développent moins de pathologies, soutient le neuropsychologue qui ajoute « On ne fait pas de tort aux gens en leur disant de s'exposer à la nature. Cela ne coûte pas cher et aucun effet secondaire négatif n'a jamais été répertorié. Selon lui, la question est plutôt de ne pas donner de fausses impressions d'efficacité et d'être capable d'individualiser les prescriptions. Des prescriptions de nature. Prescrit Nature encourage tous les prestataires de soins de santé agréés, infirmières, travailleurs sociaux, psychologues, psychoéducateurs, physiothérapeutes, ergothérapeutes et médecins, à prescrire du temps en nature à leurs patients. Inspiré de PAERX, une initiative déployée en Colombie-Britannique par la BC Parks Foundation en novembre 2020, ce programme est le premier du genre au Québec. La docteure Claudelle Pétrin-Desrosiers, l'une de ses membres fondatrices, explique que l'objectif est de promouvoir les bienfaits de l'exposition à la nature à la fois auprès des professionnels de la santé pour qu'ils l'ajoutent à leurs recommandations et de la population générale pour qu'elle passe plus de temps à jouer dehors. L'idée, ce n'est pas de médicaliser l'exposition à la nature, mais plutôt d'encourager sa recommandation, précise celle qui est aussi médecin de famille au Centre local de services communautaires, CLSC, d'Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, et présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, AQME. Des études sur l'activité physique ont en effet démontré qu'une prescription écrite augmente l'adhésion au traitement. Faute de temps, la docteure Pétrin-Desrosiers ne mentionne pas l'exposition à la nature à tous ses patients. Cependant, la pratique fait partie de son arsenal thérapeutique contre les troubles de santé mentale. Je parle de la nature d'entrée de jeu comme on discute si nécessaire des médicaments, du suivi en psychologie, d'activités physiques, de pleine conscience, de yoga, dit-elle. Elle l'ajoute aussi progressivement dans le plan de traitement des patients qui souffrent de maladies cardiovasculaires ou de diabète. La posologie recommandée. Sur la base d'une étude réalisée auprès de 20 000 personnes au Royaume-Uni en 2019, Prescrit Nature recommande aux gens de passer au moins 2 heures par semaine dans des espaces verts. Par ailleurs, un contact d'au moins 20 minutes à la fois est nécessaire pour optimiser ses bénéfices apaisants. Certains bienfaits de la nature viennent de sa seule observation. Je n'ai aucun problème à affirmer qu'il y a des bienfaits globaux pour la santé à simplement être exposé à la nature sans rien faire, juste à s'asseoir dans un parc, illustre le docteur Berrer. Voilà une excellente nouvelle pour les personnes qui sont aux prises avec des défis de mobilité. Lorsque c'est possible, être actif est néanmoins préférable pour obtenir des bénéfices additionnels en ce qui a trait à la forme physique et cardiovasculaire, d'autant plus que la nature nous permettrait de mieux bouger. Quand les gens font des activités physiques en nature, ils ont tendance à pousser un peu plus leur corps, souligne la docteure Pétrin-Desrosiers. Ainsi, pourquoi ne pas faire votre prochain entraînement cardio en sentier plutôt qu'à la salle de sport? Toute forme de nature est acceptable, ajoute le médecin, même si des études suggèrent que plus une personne a l'impression d'être dans une nature riche et complexe, plus elle bénéficie rapidement de ses bienfaits sur la santé. Il reste beaucoup à faire pour déterminer ce qu'est une nature efficace, indique de son côté le docteur Berrer. Des explications biologiques. Le rapport réalisé par la CEPAC mentionne que les effets bénéfiques de la nature sur la santé physique et psychologique proviennent vraisemblablement des multiples stimulations sensorielles qui découlent de l'interaction avec les environnements naturels. Il fait état de plusieurs études expérimentales fournissant des pistes d'explication biochimique. Les arbres produisent des phytoncides, des molécules qui les protègent contre les parasites et les herbivores. Lors d'une promenade en forêt, celles-ci s'accumulent dans le corps, ce qui entraînerait une réduction de l'inflammation, une diminution des taux d'hormones du stress et une stimulation du système immunitaire. Le calme des environnements naturels et les sons associés au mouvement du vent et de l'eau seraient eux aussi susceptibles de réduire le stress. À l'inverse, le bruit chronique des villes l'augmenterait. Même résultat pour le risque de maladies cardiovasculaires, tout en diminuant la qualité du sommeil. Les odeurs de la végétation ont sans doute, elles aussi, des effets sur le bien-être. L'air d'été et les parfums de fleurs seraient en mesure d'améliorer l'humeur et de diminuer l'agressivité. Enfin, il semble qu'un simple contact visuel avec la nature soit associé à plusieurs effets positifs sur la santé. Au cours des 35 dernières années, plusieurs études ont souligné que les patients se remettent plus rapidement de leur chirurgie lorsqu'ils voient des arbres par la fenêtre de leur chambre d'hôpital. L'importance de l'aménagement urbain. On ne peut pas parler de programme de prescription nature sans mentionner l'accès aux espaces verts, fait valoir la docteure Claudelle Pétrin-Desrosiers. S'il est donc bénéfique de s'exposer à la nature, par exemple en prévoyant une escapade en plein air, avoir un milieu de vie suffisamment riche en végétation, notamment avec des arbres le long des trottoirs, réduit la mortalité, toutes causes confondues, d'environ 10 % selon une étude canadienne publiée en 2017. Alain Paquette, professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, et chercheur au Centre d'études de la forêt, CEF, souligne que la forêt urbaine, qui regroupe les restes de forêts en ville ainsi que les arbres des parcs et des rues, rend bel et bien des services écosystémiques à la population. Pensons à la diminution de la pollution atmosphérique, à la captation des eaux de pluie ou à l'atténuation des températures. Plusieurs citadins n'ont pas accès à d'autres formes de nature que la forêt urbaine, ajoute-t-il. Or, une étude réalisée par Statistique Canada en 2019 a démontré que 75 % des villes canadiennes perdent des espaces verts. En outre, ceux-ci sont inégalement distribués sur les territoires des municipalités. Les quartiers défavorisés sont aussi ceux qui comptent le moins d'arbres, un phénomène qui porte le nom de « racisme urbain ». Le verdissement urbain, un incontournable. Toutes les villes du monde, ou presque, disent vouloir planter des arbres, mais encore faut-il les planter au bon endroit pour maximiser leurs bénéfices, s'exclame Alain Paquette. Selon lui, opter pour les quartiers riches, où il y en a déjà beaucoup, ou pour les terrains vagues situés à l'extérieur de la ville, ne donne aucun résultat. Mieux vaut privilégier les îlots de chaleur, les quartiers défavorisés ou les zones densément peuplées. Plus encore, il faut aller au-delà de la tendance actuelle, qui est de chiffrer notre effort en milliers, en millions, voire en milliards d'arbres, dit-il. Par exemple, quand les élus de la ville de Joliette ont fait appel à Alain Paquette pour son plan d'aménagement, ils n'ont pas demandé combien d'arbres ils devaient planter, mais où les mettre pour maximiser les bénéfices aux citoyens en fonction du budget dont ils disposaient. Voilà une belle question à se poser. La monoculture n'est pas une bonne idée, poursuit le chercheur. Dans la plupart des grandes villes, entre 3 et 5 espèces d'arbres représentent plus de la moitié des effectifs, ce qui fragilise la forêt urbaine en cas d'infestation. La grille du frêne touche actuellement autour de 20 % des arbres en Amérique du Nord, dont beaucoup ont dû être abattus. Il y a 40 ans, ce sont les ormes qui étaient décimés par la maladie. Ces disparitions à grande échelle ont des répercussions majeures sur la santé et le bien-être des citadins. La solution devrait passer avant tout par la préservation des grands sujets que nous avons déjà, parce que planter un arbre, c'est bien, mais ça va prendre des années avant qu'il fournisse des services en quantité considérable, fait remarquer Alain Paquette. En d'autres mots, prenons soin de nos arbres centenaires. 5 idées pour profiter des bienfaits de la nature en ville. Marchez dans les rues vertes de votre quartier. Allez au marché public pour acheter fruits, légumes, plantes et fleurs de saison. Faire du jardinage chez vous ou au jardin communautaire. Observez les oiseaux. Choisir votre arbre préféré, vous asseoir pour lire à ses pieds et pourquoi pas lui faire des câlins. C'était « Les bienfaits de la nature sur la santé », un texte de Florence Dujoux, paru le 14 mai 2023 dans Verdict Santé.
Une table ronde sur l'homophobie et la transphobie dans les sports. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 22 juin 2023 dans le magazine Fugue. Équipe Montréal, EM, le regroupement d'organismes de sport et de loisirs LGBTQ+, tiendra pour la première fois de son histoire une table ronde intitulée « Diversité dans les sports et loisirs, quelle synergie entre les différents acteurs ?» En plus de sa collaboration avec Fierté Montréal, Équipe Montréal coopère ici également avec le lab ProFEMS, un laboratoire de recherche pour la progression des femmes dans les sports du Québec, un centre de recherche de l'Université Laval, Faculté des sciences de l'éducation. Mais quel est l'objectif de cette rencontre? Le but est de créer un endroit pour parler des différents enjeux de la diversité dans les sports et des problématiques d'homophobie et de transphobie, explique Yannick Fabre, secrétaire du conseil d'administration CA de EM. Les grands clubs comme les Canadiens ou CF Montréal, par exemple, organisent des soirées de visibilité ou des activités pour le 17 mai, la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, ou encore lors du mois de la fierté. Et c'est bien. Mais lorsqu'on veut rentrer dans des questions de fond, on nous dit que ce n'est pas une priorité ou qu'il n'y a pas de budget. Donc, il s'agit de commencer à établir un dialogue. Ce sera une table ronde classique avec des invités et une modératrice en la personne de Guylaine Demers, qui est professeure à l'Université Laval. Il y aura sur ce panel Marie-Lou Saint-Pierre, chercheuse au lab ProFEMS, un représentant d'Équipe Montréal, une personne du gouvernement provincial spécialisée en sports et loisirs et sur les questions d'inclusion, ainsi qu'une personne équivalente au niveau municipal montréalais. Et on attend une réponse d'une personne représentant l'organisme Sport-Aide, qui est une ressource reconnue au Québec dans l'accompagnement des athlètes et des sportifs, blessures, harcèlement psychologique et sexuel, etc., indique Yannick Fabre, qui était à Volley Boréal et qui est maintenant à l'aérobie à pied levé, APL. En effet, Sport-Aide souhaite être fédérateur de toute intervention et devenir un carrefour pour le milieu sportif sur les questions en lien avec la violence vécue par les jeunes dans le contexte sportif. Son champ d'action s'étend à tout le système sportif, passant du milieu scolaire au milieu municipal et communautaire, du niveau amateur au niveau élite, et ce, dans toutes les disciplines sportives, peut-on lire sur leur site web. Deux éléments sont importants ici pour bien comprendre la démarche d'Équipe Montréal. Premièrement, cela fait partie de la mission de ce regroupement de discuter des enjeux d'inclusion LGBTQ+, avec les organismes membres, qu'ils soient sportifs ou de loisirs, afin d'inclure tout le monde de la diversité sexuelle et de genre. Ensuite, nous nous sommes rencontrés à EM pour réfléchir à ce que nous pourrions faire en lien avec Fierté Montréal, continue Yannick Fabre. Nous avons pensé à un événement qui pourrait offrir encore plus de visibilité à Équipe Montréal, mais qui pourrait en même temps renforcer nos liens avec le lab ProFEMS afin de mettre de l'avant ces questions d'inclusion des femmes et des LGBTQ+, dans les sports et les loisirs, d'où cette table ronde qui est un début pour nous. Équipe Montréal est de plus en plus fort, souligne Pierre-Luc Bertrand, le président de l'organisme. C'est un beau projet qui est complètement différent de ce que l'on organise normalement. Il y a une vraie opportunité, là, d'amener ce débat-là sur l'inclusion sur la place publique et de commencer à parler sérieusement des questions d'homophobie dans les sports et les loisirs, ce dont on entend très peu parler, malheureusement. En ce moment, il n'y a aucune véritable ressource LGBTQ+, francophone, en termes de sport et de loisirs, pour aider les gens dans ces milieux-là, pour les appuyer. Il en existe chez les anglophones, par contre. Donc, il s'agit ici d'en parler pour éventuellement que cela bouge et que l'on débouche sur une telle organisation. Peut-être avec le Lab Profems, on verra, dit Yannick Fabre. Bien sûr, Équipe Montréal est renommée pour les tournois, les compétitions, l'appui aux équipes qui se rendent dans des concours internationaux, etc. Mais nous sommes tous bénévoles. On ne peut pas œuvrer à l'organisation de telles activités et, en même temps, travailler sur les questions d'homophobie ou d'inclusion. Donc, on espère que cette table ronde servira à jeter les bases pour aller chercher des subventions pour que l'on puisse engager des employés qui pourront travailler sur ces questions importantes, note Yannick Fabre. Pierre-Luc Bertrand ne manque pas de mentionner, d'ailleurs, que plusieurs d'entre eux sont déjà à pied d'œuvre sur les Gay Games de Hong Kong cet automne et dont la branche américano-occidentale se déroulera au Mexique, à Guadalajara. Ce qui démontre, une fois de plus, un réel besoin d'appui financier en vue d'embaucher du personnel qui sera aussi en lien avec tout le milieu sportif afin que les questions de diversité sexuelle et de genre ne soient pas seulement du marketing servant à plaire à des clientèles de fans que l'on cherche à séduire par des chandails aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'était une table ronde sur l'homophobie et la transphobie dans les sports. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 22 juin 2023 dans le magazine Fugue.
Le village entre lianes et paillettes. Une chronique signée André Constantin Passiour, paru le 22 juin 2023 dans le magazine Fugue. Entre lianes et paillettes, la nature reprend ses droits dans le village. Cet été, le concept imaginé par Castor et Pollux, agence de paysage et design urbain, invite au rassemblement et à l'appropriation d'un écosystème revisité. On entre ainsi dans un habitat composé de différentes installations surprenantes alors qu'on déambule dans un sens ou l'autre, vers l'est ou vers l'ouest, sur Sainte-Catherine. Le noir et blanc, trame de fond épurée d'un paysage renouvelé, fait office de canevas duquel jaillissent les couleurs éclatantes des villageois-villageoises rassemblés dans un décor aux mille facettes. À travers un parcours scénographique de près d'un kilomètre, on se promène entre folies animales et végétales. On se surprend ainsi à voir un chevreuil à l'angle de Papineau, mais pas n'importe lequel. Celui-ci est blanc tacheté d'étoiles. Une lionne, trônant devant Arte et Farina, revêt plutôt un pelage fait de fleurs stylisées. En continuant notre route, on rencontre une vache aux taches en forme de cœur, assise confortablement. Elle nous invite d'ailleurs, près du métro Baudry, à prendre place et à relaxer, car c'est aussi un banc. Plus loin, alors qu'on arrive vers la fin des limites du village, près de Saint-Hubert, c'est l'animal mythique et légendaire de la licorne qui nous fait signe. Celle-ci est zébrée et nous invite, tout comme la vache, à nous asseoir le temps d'un instant. Tous ces animaux créés par Castor et Pollux ont été peints par l'artiste multidisciplinaire Nikki Kunzel et son équipe, qui a été à l'œuvre pour donner vie à ce nouveau décor urbain. C'est Nikki également qui a peint la grande murale que l'on retrouve sur le mur sud-est de la Banque royale au coin de la rue de la Visitation, une œuvre effectuée en juillet 2022 avec pour objectif d'y peindre la diversité, l'inclusivité et la différence. Des stations d'observation nous invitent à s'installer parmi les troupeaux de mobilier ou au cœur d'une végétation tropicale. Entre fougères grimpantes, saules et retombantes scintillantes et les divers animaux, tout est prétexte à un arrêt insolite. Lors de votre promenade, vous découvrirez ainsi plusieurs stations. Des tables et des chaises blanches en métal, tachetées de divers motifs, invitant à la détente. Généralement placées du côté nord de la rue Sainte-Catherine, ce sont des espaces plutôt ombragés qui permettent, les journées de canicule, de sentir une certaine fraîcheur avant de reprendre son chemin. Les bandes blanches au sol, qui rappellent les zébrures de l'animal unique qu'est le village, rythment la promenade où toutes et tous sont libres d'afficher leurs rayures dans cette jungle des possibles. Le blanc réfléchit aussi la lumière du soleil. Tout est en effet pensé en fonction de ces fameux îlots de chaleur que l'on retrouve dans les grandes villes et qu'il faut atténuer de plus en plus avec le réchauffement climatique et ses effets que l'on connaît. La place du village, à l'angle de Wolf et face au cabaret Mado, point culminant de cette symphonie végétale, est un lieu de rassemblement où prendre racine au cœur du quartier inclusif de Montréal. Cet endroit à vocation sociale et culturelle appelle à la discussion, à l'inclusion, à la célébration des connexions et aux jeux, grâce aux aménagements ludiques conçus par Castor et Pollux. Par ailleurs, ceux et celles qui désirent se rafraîchir avec une forte dose d'air climatisé peuvent aller se désaltérer à la place du puits. Même là, il est intéressant de voir les grandes murales créées par une dizaine d'artistes sous l'impulsion de l'organisme MU. Là, c'est un coucher de soleil rougeoyant. Ailleurs, ce sont des strates de nuages de différents tons. Là encore, c'est un magnifique paysage d'arbres, de lacs et de plantes qui nous attend au détour. Ensuite, c'est une arche qu'on aperçoit au milieu de la végétation, et ainsi de suite. Ça vaut le coup d'œil et cela redynamise grandement la place du puits qui se refait ainsi une beauté pour cette saison estivale. La SDC du village remercie l'arrondissement de Ville-Marie pour la contribution au projet d'aménagement du village en 2023. C'était « Le village, entre lianes et paillettes », une chronique signée André-Constantin Passiour, parue le 22 juin 2023 dans le magazine Fugue.